الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شفاء الإسلام جزاك الله. Nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité donc de reprendre les programmes concernant la résurrection, concernant les comptes. Et on avait démarré un chapitre extrêmement important qui concerne la situation des mu'mines, la situation des gens pieux, des personnes qui ont su vivre leur vie de ce dunya dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, en accomplissant des bonnes actions et en s'éloignant des interdits. Et donc la situation de ces personnes, le jour de la résurrection. Après qu'on ait vu la situation des pécheurs et les conséquences de leurs péchés, maintenant ce sont là de bonnes nouvelles. Et la plus belle des nouvelles concerne les personnes qui seront appelées le jour du Qiyama pour être à l'abri de toutes les kurubat, pour être à l'abri de toutes les difficultés de la résurrection. Ces personnes-là auront la chance d'être sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection. On avait donc introduit le hadith en expliquant brièvement quelles sont les sept catégories de personnes qui seront donc sous l'ombre du trône d'Allah azza wa jal. On avait dit que parmi ceux-là, il y a un roi, un dirigeant juste, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah azza wa jal, un homme dont le cœur était attaché à la masjid, des personnes qui se fréquentaient, qui s'aimaient sincèrement pour Allah azza wa jal et non pas par intérêt personnel ou pour toute autre raison. Également une personne qui subit des avances, qui reçoit des avances de la part d'une femme qui est belle. Et cette personne refuse de faire le zina uniquement par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne qui donne le chemin d'Allah avec une telle sincérité que personne n'est au courant de sa sadaqa, de son aumône. Et enfin une personne qui pense à son Seigneur, qui pense à Allah seul dans la nuit chez lui sans que personne ne le voit. Et par amour et crainte d'Allah azza wa jal, il y a des larmes qui coulent de ses yeux parce que son cœur déborde, son cœur est rempli d'amour pour Allah et de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, lorsqu'on parle de l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, il est important de comprendre quelle est la grandeur du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors très souvent, le problème c'est que nous en tant que mu'mine, en tant que musulmans, même si on a un certain degré de pratique, très souvent on ne connaît pas assez notre Seigneur. On ne connaît pas assez Allah Azza wa Jal. On connaît le nom Allah, c'est Allah, Alhamdulillah, Allah Akbar, il y a le nom d'Allah dans nos adhkar. Mais si on demande à une personne, pas de décrire Allah, mais de nous expliquer la grandeur d'Allah, d'essayer de trouver des choses, des objets de la création qui prouvent qu'Allah Azza wa Jal, il est subhanallah. C'est inconcevable de penser à la grandeur d'Allah Azza wa Jal. On sait Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah est plus grand. C'est le plus grand de tout, d'accord? Mais maintenant, pour avoir une idée, pour comprendre qu'est-ce que c'est la notion de grandeur quand on parle de l'au-delà et quelle est la notion de grandeur quand on parle du Seigneur de l'univers, il faut comprendre la grandeur des créations qui sont les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces créations les plus extraordinaires, il y a la création du Arsh, la création du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que très souvent nous n'avons pas la concentration nécessaire et adéquat de l'ibad? Qu'est-ce qui fait que quand un mu'min, un musulman, même si depuis très longtemps il prie, depuis très longtemps il fait le dhikrullah ou il lit le Qur'an, mais il n'a jamais atteint ce degré d'élévation spirituelle qui le permet de se concentrer, de penser uniquement à son Seigneur et parfois même de pleurer par amour et par crainte d'Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à cet état d'élévation spirituelle? C'est qu'on ne connaît pas assez notre Seigneur. Lorsque je me prosterne, je n'ai pas conscience devant qui je me prosterne. Je ne connais pas qui est mon Rabb. On sait qu'Allah est invisible. Allah, on ne peut pas le voir. Donc on se dit que Allah, on ne peut pas le voir. Donc il n'y a pas besoin d'essayer de comprendre comment est Allah. Le but n'est pas de comprendre comment est Allah. Ça, c'est inconcevable. Mais de comprendre quelle est la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Comment notre Seigneur est gigantesque, il est magnifique, il est parfait. Ça, c'est une des conséquences de notre ignorance à propos d'Allah Azza wa Jal. On ne peut pas atteindre le degré de concentration. Dans certains hadiths, il décrit que, hadith qu'on expliquait hier dans d'autres circonstances, qu'une fois Aïcha radiallahu anha, elle avait décrit la salat du prophète alayhi salatu wassalam lors du qiyam ou le tahajjud. Sahaba dit, oh Aïcha, décris-nous une des choses les plus extraordinaires que tu as vues du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu était avec vous. Et là, elle a décrit qu'une fois le prophète sallallahu a demandé l'autorisation, oh Aïcha, accorde-moi l'autorisation de passer la nuit dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Et je lui ai accordé l'autorisation. D'accord ? Là déjà, vous voyez, subhanallah, la relation entre l'époux et l'épouse. Il n'y a pas un dominant et la femme qui est dominée. Le prophète sait que lorsqu'il passe sa nuit avec Aïcha, il y a des droits. Sa femme a des droits. Et là, il lui demande l'autorisation de se consacrer à Allah Azza wa Jalla uniquement. Et là, Aïcha, radiallahu anha, elle décrit que le prophète a fait le wudu, les ablutions. Jusqu'à maintenant, c'est clair. Il n'y a rien de compliqué, on le fait nous aussi quand on fait la salah. Il n'y a rien d'exceptionnel, il a fait le wudu. Il s'est mis debout, il a commencé Allahu Akbar. Nous aussi quand on commence la salat, on lit Allahu Akbar. Jusqu'à là, il n'y a rien de problématique. Mais ensuite, lorsque Aïcha radiallahu anha décrit la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam de le tahajjud, de le qiyam ou l'ail, elle décrit que le prophète faisait sa salat, il faisait doigt, il pleurait tellement qu'au début, les larmes restaient au niveau de la barbe, de la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, les larmes allaient au niveau de ses jambes, de ses cuisses, de son giron, comme on a dit. Et ensuite, les larmes du prophète alayhi salatu wa sallam tombaient sur le sol. Et là, Bilal radiallahu anhu donne le adhan du fajr. Là, c'est depuis l'Isha jusqu'à le adhan du fajr. Et là, Aïcha radiallahu anhu, elle voit que le prophète a terminé, il a passé une nuit dans le tahajjud. Et dit, ô prophète d'Allah, pourquoi tu pleures autant alors qu'Allah azza wa jalla t'a pardonné tes péchés? Quelqu'un qui a fait des péchés, quelqu'un qui, Allah nous pardonne, nous protège plutôt, quelqu'un qui a fait le zina, qui a fait, je ne sais pas qu'est-ce qui est passé par sa tête, il a fait le zina une nuit. Et puis il retourne chez lui, il se rend compte que qu'est-ce que j'ai fait? Mon iman a quitté mon cœur à ce moment, c'est un kabira. Je ne sais pas si à cause de ça, j'entre dans le jahannam, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. La personne a tellement de remords, de crainte qu'il demande tauba, 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 oh pardon, ya Allah, et qu'il pleure. Là on va se dire que ben oui, je sais ce qu'il a fait lui, c'est normal qu'il pleure comme ça. Mais lorsque c'est Nabiullah alayhi salatu wa salam, celui qui ne commet pas de péché, c'est l'homme parfait qui ne commet pas de péché. Et malgré ça, Allah Ta'ala lui a donné la garantie que les péchés antérieurs et futurs sont pardonnés. Et c'est ce qui interpelle Aïcha. Elle dit au prophète d'Allah, Allah t'a tout pardonné. Mais pourquoi pleurer autant de la salat, dans les du'as? Elle dit, oh Aïcha, est-ce que je ne dois pas être un serviteur Shakur, en reconnaissant? Et là le prophète alayhi salatu wa salam a dit que Allah azza wa jalla m'a révélé un verset hier soir qui m'a interpellé. Et gare à ce musulman qui lit ce verset, al-wail, c'est-à-dire gare, attention à ce musulman qui lit ce verset et qui ne médite pas sur ce verset. Ce verset c'est quoi? Il n'a fait خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آيات لأولي الألباب. Ce verset invite le musulman, exhorte le musulman à réfléchir, à méditer sur la création d'Allah Azza wa Jal, la création des cieux, de la terre, du soleil, de la lune, tout ce qu'il y a autour de nous, de voir à travers cela la grandeur et la perfection de notre Seigneur. الذين يذكرون الله قياما, et ceux qui pensent à Allah debout, assis dans toutes les situations de leur vie, قياما وقعودا وعلى جنوب ويتفكرون, ils réfléchissent في خلق السماوات والارض, ils réfléchissent à la grandeur d'Allah à travers ses créations. Et ça on avait dit c'est quelque chose d'extrêmement important, on ne va pas entrer dans les détails, ça c'est le standard de hier. Méditer sur la grandeur d'Allah en contemplant ses créations, c'est un des plus grands ibadah. Qu'on comprenne bien que pour faire ibadah, aussi important que ça, il n'y a pas besoin parfois d'avoir le wudu. Il n'y a pas besoin d'être habillé comme moi. Il n'y a pas besoin d'avoir un tasbih dans la main ou autre chose. Il suffit parfois de rester silencieux, mais le cœur et l'esprit travaillent, et le cœur et l'esprit sont avec Allah Azza wa Jal. Ça, c'est un acte d'adoration qui est aimé par Allah. Quelqu'un qui regarde, par exemple, vous allez, je ne sais pas moi, si Laos, vous allez à Mafat, vous allez à un endroit où vous voyez les montagnes, un coucher ou un lever du soleil, vous voyez des oiseaux, vous voyez la création, et vous dites Allahu Akbar, comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal est grand, qu'il a pu créer une telle variété dans la faune, dans la flore, dans telle chose, et tout ce système-là est parfait, il se complète, et si on enlève un maillon, c'est catastrophique, etc., etc. Même en regardant, quelqu'un, il regarde les trucs d'analyse de sang, les résultats, je dis qu'Allah Akbar, dans le corps, dans une goutte de sang, il y a tant de globules blancs, tant de globules rouges, il y a tant de, mais je sais pas moi qu'est-ce qu'il y a dedans, je suis pas docteur, de magnésium, de calcium, de tout ça. Et s'il y a un mad, il y a quelque chose en plus, c'est une catastrophe. S'il y a quelque chose en moins, c'est un problème. C'est Allah Akbar. Allah fait en sorte qu'il y a combien de gouttes dans le corps d'un être humain et que chaque goutte comporte une quantité d'éléments chimiques qui est réglée par Allah Azza wa Jal. Et d'animaux en animaux, de créatures en créatures, d'espèces en espèces, ce sont des fonctionnements, des organismes différents, mais qui ont un roulement depuis des milliers, des centaines de milliers d'années. Il n'y a qu'un être parfait qui peut organiser une création aussi parfaite. Subhanallah. Ça, c'est extrêmement important. Comprenons, mes chers frères, qu'on n'a pas besoin de venir à la masjid pour faire l'ibadah. Pas toujours. Même dans les moments de silence où on n'a rien à faire, le musulman ne doit pas rester insouciant, bête comme ça. Regarde dans le vide, il ne comprend pas rien. C'est pour ça qu'il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que, ben je vous dis ça, hein, on a fait aussi quand on était jeunes, que quand on voit nos jeunes qui passent leurs vacances entières, ils jouent les jeux vidéo, ils regardent la télé, ils font des trucs comme ça. C'est des heures et des heures cumulées qu'on est en train de gaspiller. Regardez tous les plaisirs qui ont été faits. L'objectif, c'est quoi? C'est d'occuper l'esprit. C'est comme à l'époque des Romains, hein, donner au peuple du pain et des jeux. Donc aujourd'hui, regardez le temps que les gens perdent, j'allais dire passe, le temps que les gens perdent en regardant des matchs, en suivant les résultats, en jouant le PlayStation, le Wii, le je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Je ne dis pas que c'est haram. On ne dit pas que c'est haram. Mais comprenons que ce temps est précieux. Le seul regret que le Jannati aura, c'est quoi? Un habitant du paradis ne connaîtra pas la tristesse. Mais il aura un seul remords, c'est que si seulement j'avais consacré plus de temps dans l'adoration d'Allah, j'aurais eu un grade encore plus élevé, je serais encore plus proche du trône d'Allah Azza wa Jal dans le paradis. Ce sera le seul regret, mais ce n'est pas un regret qui rend triste, hein, mais ce sera une réflexion. Ça veut dire que le temps qui passe, c'est quelque chose d'extrêmement important. À nous d'en profiter. Soit on l'utilise dans le mauvais chemin, na'oud billah, soit on l'utilise dans le bon chemin, ou alors on le perd. Et si on le perd, c'est déjà khasara, c'est déjà une catastrophe. Donc le prophète il fait la salat comme ça, il pleure par amour et par crainte d'Allah Azza wa Jal. Dans d'autres circonstances, on avait cité ça hier également, le prophète demande à Abdullah ibn Mas'ud de lire le Coran. Lis, je vais t'écouter. Ibn Mas'ud dit au prophète d'Allah, Allah a révélé le Coran sur toi. C'est pas moi qui dois le lire, c'est moi qui dois t'écouter. Le prophète dit que non, j'aime écouter les gens lire le Coran. J'aime quand d'autres personnes lisent et j'écoute. Parce que quand quelqu'un écoute, ça permet à la personne de méditer sur le sens des versets. Alors que quand on lit, très souvent, on est un peu plus concentré sur la lecture, le tajwid, les prononciations. Mais quand on n'a qu'à écouter, on médite, on écoute. D'accord? Et il y a une différence aussi, je pense, entre écouter une cassette et écouter quelqu'un de vive voix. Quand on écoute de vive voix, il y a quelque chose. Hein, ça fait un peu plus d'effet. Donc, Ibn Mas'ud, il enchaîne de versets jusqu'à ce qu'il arrive à un verset où Allah Ta'ala dit « Fakayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala ha'ula'i » Shahida. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla explique que le jour de la résurrection, chaque communauté, hein, pour chaque communauté, il y aura un témoin. Et Allah Ta'ala s'adresse pour Assalam, dit Nabika, et on t'appellera comme témoin pour toutes ces personnes. Et là, Ibn Mas'ud, il regarde le Prophète Sallam, dans d'autres versions, le Prophète Sallam lui avait dit Hasbuk, assez, c'est suffisant. Et là, il voit le Prophète Sallam était en train de pleurer. Le Prophète Sallam écoute les versets du Coran, le Prophète Sallam fait sa salat et il pleure. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand il pose son front sur le sol, devant qui il pose son front. Dans un hadith, on terminera avec ça pour revenir au fil du programme. Aïcha, non, ça c'est la note, Sahaba dit que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam commencer la prière. Tahajjud. Je me suis joint à lui. Il a commencé suratul Baqara alif lam mim. Il fait la salat. Et je me suis dit qu'au centième verset, au centième ayah, ben, il va faire le ruku'. Et vous savez, c'est quoi l'ayah 100 ayah? C'est énorme, c'est beaucoup. Au centième, il continue. Il va arriver à la fin de Baqara. Enfin, Baqara, ça fait combien de sipara? Ça fait 2 sipara, un quart et un petit peu plus. D'accord? Il dit qu'à la fin de Baqara, je suis persuadé qu'il va aller dans la génuflexion, le ruku'. Il enchaîne avec surat Al-Imran en entier. Yani, subhanallah, des rakat interminables. Et ensuite, quand le prophète fait le ruku', il décrit que le ruku', la génuflexion, était aussi longue que sa qira'a. Hajib ça. Je ne sais pas combien de temps il faut pour... Sur le Baqara, il faut une heure de temps minimum pour lire. Si on lit vite comme... D'accord. Comme des mouches qui boisonnent. Mais si quelqu'un lit avec tadabbur, quand le prophète sallam, et il dit qu'à chaque verset où il y avait une question, où Allah interpelle l'être humain, le prophète sallam reformulait la question en ce sens. Lorsqu'il y avait un verset où il y avait un tasbih, des louanges d'Allah, le prophète sallam lisait le subhanallah. Et c'est-à-dire le prophète sallam, il vivait les versets du Coran. C'est un salat nafil bien sûr. Le temps qu'il faut pour lire avec concentration, dévotion et méditer sur chaque verset. Al-Baqarah plus Al-Imran et le ruku' est égal à cette lecture. Et le sijda était presque égal à la position debout. Regardez, c'est quoi dans le salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce qu'un être humain peut rester deux heures de temps dans un sijda? S'il ne sait, s'il n'a, comment est-ce qu'on peut faire ça? Si on a vraiment pris conscience, un, qui est notre Seigneur? Comment il est grand? Devant qui on se prosterne? Et quelle chance Allah me donne de me prosterner devant lui? Quelle chance Allah me donne de poser mon front devant lui? Ça c'est un grand ni'ma. Ça c'est tawfiq min Allah. Et celui qui a réalisé, je dis bien, je ne dis pas celui qui l'a fait, parce que le fait, tout le monde le fait. Même quand je fais salatul isha, je pose mon front sur le sol. Mais celui qui a réalisé l'importance de ça, il ne veut plus décoller son front du sol. Il aimerait que Malik al-Maud reprenne son âme dans cette position, qu'il retourne auprès d'Allah en position de sijda. Ça c'est quand on a une prise de conscience, nasjudu amam azim, qu'on se prosterne devant le Seigneur, le plus grand. Comment Allah azza wa jal, il est gigantesque, il est as-samad. Et donc ce qui fait que, pour revenir au fil, ce qui fait qu'on n'arrive pas, on ne va pas se comparer au prophète sallam bien sûr, mais on n'arrive pas à un degré de concentration, même pas un centième. Nos salats, c'est quand on commence, on est pressé de terminer. Mais dans cette station, il disait que, ça c'est des tabi'in ou des tabi'in, il disait qu'une personne qui fait deux rakat, mais avec dévotion, en essayant de comprendre ce qu'il lit, en méditant, en pensant, Subhan Rabbi al-Azim, qu'est-ce que ça veut dire, Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-A'la, toutes les puretés, louanges reviennent à Allah, l'élevé le plus haut, il le ressent de son cœur, ces deux rakats-là valent mieux pour cette personne que de passer une nuit entière de tahajjud sans prise de conscience. Quelqu'un peut faire quatre temps de salat, mais il lit, il répète, il lit des versets, mais il a la tête ailleurs, il n'a pas de concentration. Ces deux rakat concentrés avec compréhension a plus de valeur et apporte plus à cette personne qu'une nuit passée en lisant bien sûr de le Qiyamul Layl, mais sans prise de conscience. Et pour revenir à ça, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas cette concentration, cette dévotion, cette compréhension comme le prophète alayhi sallam? C'est qu'on ne connaît pas vraiment qui on adore. Devant qui je me prosterne depuis 20 ans, depuis 25 ans, depuis que j'ai l'âge de 13, 14, 15 ans. On doit prendre conscience qui est Allah, Seigneur et Maître de l'univers. Et la deuxième conséquence de cette ignorance, c'est quoi? On va pas tarder. 17 minutes. La deuxième conséquence, c'est quoi? C'est que si on ne connaît pas qui est notre Seigneur, ben, on n'aura pas de gêne à le désobéir. Quand on ne connaît pas la grandeur d'Allah, quand on ne connaît pas, il y a qui comme créature qui adore Allah depuis leur création jusqu'à la fin des temps? Comment sont les anges qui sont prosternés devant Allah depuis leur création jusqu'au Qiyamah? Si on prend conscience, si on prenait conscience de ça, on comprendrait comment moi j'ai la chance de faire un sijda. En parenthèse, il y a des gens, on avait expliqué ça dans le bayan de Jumu'ah, imaginez qu'il y a des gens qui depuis leur naissance jusqu'à leur mort, ils n'auront pas tawfiq de quoi? De faire un sijda devant Allah. À quoi sert cette vie? Un être humain qui naît et qui meurt à l'âge de 80 ans et qui n'a pas eu tawfiq de faire un sijda devant Allah Azza wa Jal. Quel khasara! Et nous, quelqu'un qui n'a pas iman, je veux dire. Et nous, quelle chance Allah nous a donné de pouvoir nous prosterner au moins pour les 5 salats devant notre Seigneur. Et donc, la deuxième chose, c'est quoi? Si je ne connais pas comment mon Seigneur, il est magnifique, il est gigantesque, comment les anges, ils ont la crainte d'Allah de leur cœur alors que eux, ils sont purs, ils ne font qu'un péché, ben quand moi, je serai exposé au péché, je n'aurai aucune retenue. Je ne vais pas ressentir de gêne, de peur, de crainte, de désobéir à Allah Azza wa Jal. Tandis que si j'essaie de comprendre mon Allah c'est qui, ben je vais l'adorer comme il le doit, comme il se doit d'être adoré, et je vais craindre mon Seigneur comme il se doit d'être craint. Alors pour parler du Arj, hein, on pourrait parler de toute la création du monde de l'invisible, mais 10 minutes on parle que du Arj, du trône d'Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi sallam décrit que le Arj a des, on pourrait pas dire des pieds, mais comme un support. Le prophète me dit que le jour de la résurrection, les gens vont se réveiller et je serai la première personne à me réveiller lorsque Israfil soufflera une deuxième fois dans la corne. Et lorsque je me réveille, je vais voir Faïda Anabi Moussa Akhavabika Imati Min Kawa Imin Arj. Lorsque je me réveille, je vois Moussa alayhi sallam qui lui est déjà réveillé et il est agrippé à un des supports, à un des pieds du trône d'Allah Azza wa Jal. Autre chose. الذي قال الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. Ce verset explique, nous fait comprendre que Allah Azza wa Jal a créé des malaïkas, des anges qui ont comme mission de porter le trône d'Allah Azza wa Jal. Et dans un autre verset, de sourate Al-Haqqa, wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya, qu'il y a 8 malaïka qui portent le trône d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est pour avoir une description physique. Mais en même temps qu'Allah a créé 8 malaïka qui portent son trône, Allah n'a pas besoin de ces malaïka. Même si Allah a créé 8 malaïka pour porter son trône, mais Allah n'a nullement besoin de ces malaïka. Ça, c'est pour qu'on comprenne que notre logique ne peut pas tout interpréter. Le prophète avait expliqué ce verset aux Quraysh, aux ignorants, Jahiliyyah, et c'est un fitna pour eux. Ils ont mal compris. Ils se sont dit que, ah, il n'y a que huit anges qui portent le trône d'Allah. Ben, nous, on est nombreux le jour du Qiyamah, na'oud billah. On va vaincre ces 8 anges. Ils sont que 8, na'oud billah. C'est un fitna pour eux. Et ça nous fait comprendre que la logique, ça ne marche pas. Quand on dit 8, c'est pas comme nous, on imagine. Et même si eux, ils portent, yahmilouna, mais c'est pas porté comme moi, je porte un banc. Et que si je le lâche, il tombe. C'est pas comme ça. Allah les a créés. Ils sont là comme ça, mais Allah n'a nullement besoin d'eux parce que Allah, il est Allahus Samad. Allah, il est indépendant, il est omnipotent, il n'a besoin de personne. Hada. Également, où est le arche d'Allah Azza wa Jal? Notre prophète, alayhi salatu wa sallam, j'ai expliqué un hadith rapporté par Abu Hurairah. Faida sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Lorsque vous demandez à Allah le paradis, demandez à Allah, oh Allah, accordez-nous le firdaus. Parce que le firdaus est le plus haut degré du paradis. Wa fawqahu, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du firdaus? Wa fawqahu arshur rahman. Au-dessus du firdaus, il y a quoi? Le trône d'Allah Azza wa Jal. Au-dessus du Firdaus, du jannat al-Firdaus, il y a le trône d'Allah, wa minhu, et à partir du trône d'Allah, tufajjaru anharu al-jannah. Vous savez qu'il y a des fleuves dans le paradis. Fiha anharu min ma'in ghayri asin, wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'am, wa anharu min khamrin ladatil sharibin, wa anharu min asalim musaffa. Il y a 4 fleuves différents. Il y a un fleuve normal de l'eau, mais je dis normal, mais c'est l'eau du paradis. Il y a le lait, il y a le miel, il y a le vin. Mais ce n'est pas le vin du dunya, c'est le vin du paradis. D'accord? Et ces fleuves-là prennent leur source sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est une description un petit peu magique pour qu'on comprenne où est le arche d'Allah, au-dessus du firdaus. Et les fleuves du paradis viennent du arche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il y a des anges qui sont là pour soutenir le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le trône d'Allah, c'est la première des créations. Hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu dit que كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. Allah Ta'ala a écrit le destin, la destinée de toute la création avant la création des cieux et des cieux et de la terre. 50 000 années avant la création des cieux et de la terre, Allah a écrit toute la destinée. C'est pour ça que le musulman, il ne stresse pas. C'est pas juste que don't panic, parce que je suis musulman, don't panic, parce qu'il y a un taqdir. Il y a un destin. Yani, c'est pas moi qui fais avancer les choses. Il y a le concours de circonstances, il y a le destin, il y a le libre arbitre, mais le tout a déjà été prédestiné par Allah, et Allah nous laisse agir, et que chacun ira vers son destin. Si je fais rien, j'aurai rien. Si je bouge, je peux avoir comme je peux ne pas avoir. Et en finalité, tout est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, Allah ta'ala a écrit la destinée de Al-Khala'iq, de toute la création, wa 'arshuhu 'ala al-ma. Et 50 000 années avant donc toute cette création, le trône d'Allah était déjà sur l'eau. Wa 'arshuhu 'ala al-ma. Et les ulama du Aqidah disent que la création du arsh est avant. Le arche a été créé avant le qalam, avant la plume avec laquelle le destin est écrit. La première des créations, c'est le arche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous dites, mais avant qu'Allah crée le arche, où était Allah? Ça, c'est pas notre problème, ça. Là, c'est la limite de l'être humain. Mais ça nous permet de comprendre qu'Allah n'a besoin ni du arche, ni du qalam, ni des cieux, ni de la terre, ni de nous, ni des malaïkas, ni de jannah, ni de jahannam, ni de rien du tout. Parce que Allah, il est as-samad. Et on ne connaît pas Allah. Allah, on n'a pas besoin de connaître comment, mais pourquoi non. Ça c'est wasawis shaitan, ça c'est la limite de l'être humain. Mais la première chose qu'Allah a créée, c'est le arche. Et parmi les choses, il y a 4 choses qu'Allah Ta'ala a créées de ses propres mains. Qu'Allah Ta'ala a créées personnellement, alors que pour les autres choses, Allah Ta'ala dit, kun fakana, kun fayakun. Allah Ta'ala a donné que ces choses existent et ces choses ont existé. C'est quoi les quatre choses? Quelqu'un a une idée? Il y a le arj tout d'abord. Il y a le qalam, la plume avec laquelle le destin est écrit. Adam alayhi salam et le paradis, Jannat Adn et le paradis. Et pour le reste des choses, c'est l'ordre d'Allah azawajal, le verbe comme on dit, d'accord? Donc le arsh a été créé par Allah azawajal personnellement. Selon Ismaïl ibn Abi Khalid, certaines sources, il dit que, Imam Dahabi rahimahullah également, il dit que le arsh serait fait de yaqoutatun hamra, comme si ce serait fait de pierre, comme des pierres précieuses, mais ce n'est pas comme les pierres précieuses de dunya, avec une couleur, une prédominance rougeâtre. Avec une prédominance rougeâtre. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, le hadith avait décrit la grandeur du trône d'Allah Azza wa Jal, hadith qu'on avait cité il y a quelque temps. Comparaison des cieux, on avait dit ça. Comparaison du dunya et tout ce qu'il contient par rapport au premier ciel. C'est comme une personne qui prend sa bague et qui jette dans un champ vaste. Comparaison du premier ciel par rapport au second ciel, même métaphore, quelqu'un qui prend sa bague et qui jette dans un champ vaste. Là déjà on a compris comment le premier ciel est gigantesque par rapport à ce monde et tout ce qu'il contient, mais le premier ciel c'est rien, rien, un milliardième par rapport au second ciel. Et le second ciel par rapport au 3, au 4e, au 5e, au 6e, au 7e, et le 7e ciel par rapport au kursi, et le kursi par rapport au arsh d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est juste pour qu'on essaie de comprendre que le arsh, c'est extraordinaire, c'est inconcevable. Mais comment est Allah Akbar, le propriétaire de ce arsh, comment il est magnifique, comment il est, subhanallah, comme Allah seul le sait. Ah, également, notre prophète alayhi salatu wasalam décrit maintenant les anges qui portent le trône d'Allah Azza wa Jal. On peut essayer de comprendre la grandeur d'Allah en comprenant la grandeur de ses créations. Là, on a vu le arsh. Maintenant, les anges qui portent le arsh d'Allah Azza wa Jal. Le prophète me dit Udin Ali. Hein, Allah Ta'ala m'a donné l'autorisation de décrire un des anges qui porte le trône d'Allah Azza wa Jal. Il dit que Bayna shuhmati udhunayhi wa atiqihi khifqanu at-tayr 700 am. La distance qu'il y a entre l'oreille de cet ange et sa nuque, regardez, pour nous ça fait quoi? Ça fait 10 cm. Entre son oreille et sa nuque, c'est khifqanu at-tayr, à vol d'oiseau, 700 années. À vol d'oiseau, uniquement cette partie du corps de l'ange et cette partie du corps. Et cet ange, depuis qu'il est créé, il dit Subhanaka haythu kunta. Il a un tasbih à lui seul, dit oh Allah, toutes tes louanges te reviennent, quel que soit l'endroit où tu es. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il décrit également les anges qui portent le trône d'Allah Azza wa Jal. Il dit que ma bayna ka'bi ahadihim ila asfali qadamayhi, entre la cheville et le bas du pied d'un ange. Ça fait quoi pour nous? Ça fait 3 doigts. Entre la cheville et le pied, hein, comment on appelle ça? La plante des pieds, donc qui est en contact avec le sol. Pour nous, ça fait 3-4 cm. À dire pour un des anges qui porte le trône d'Allah Azza wa Jal, masirata 500 am. Une distance de 500 années. Une distance de 500 années. Donc ça c'est, on peut concevoir, il y a des gens qui disent que c'est pas possible, il ne faut pas dire que c'est pas possible, on peut dire que ça nous dépasse, mais il ne faut pas oublier que là on parle du monde de l'invisible. Là c'est pas les données, les mètres, les décamètres, les kilomètres et les années-lumière là, là c'est, on est à un autre niveau là, là on est dans la description du monde de l'invisible, ce que personne n'a pu voir à part notre prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il est parti, hein, lors du Isra et du Mi'raj. Donc ça pour qu'on comprenne comment les créatures d'Allah dans l'au-delà sont gigantesques, ça nous permet d'imaginer comment Allah azza wa jalla, lui il est exceptionnel. Dans un hadith il dit que inna ma bayna as-sama'i wal ardi, entre le ciel et entre la terre et le ciel, il y a une distance de 500 années. Et entre chaque ciel, il y a une distance de 500 années. Et l'épaisseur de chaque ciel également est de 500 années, etc. etc. Si on calcule, on additionne, on arrive à des chiffres extraordinaires. On ne peut pas comprendre. Ces quelques hadiths ont pour but de nous faire comprendre la grandeur de la création d'Allah et à partir de cela, déduire et comprendre la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Alors quand moi, Ibrahim, ou Ismaïl, ou Ishaq, ou Abdurrahim, Abdul Hakim, Abdul Halim, Allah me permet de faire un sujda, comment je suis minuscule, Allah me permet de faire un sujda devant lui, quelle chance. Et quand moi, aussi minuscule que je suis, j'ose désobéir à Allah, mais quelle audace, que désobéir à quelqu'un qui est, subhanallah, notre Khaliq, qui est aussi gigantesque, qui est aussi magnifique. Il y a un ange, ce sera le dernier hadith, il y a un ange qui créé par Allah Azza wa Jal, bien sûr, inna malakan lamma stawa ar-rabb, lorsqu'Allah s'est établi sur son trône, kama yaliqu bihi Azza wa Jal, cet ange sajada, il s'est mis en prosternation. Lam yarfa'a ra'sahu hatta taqum as-sa'a. Il reste en sijda jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la résurrection. Et lorsqu'il se relèvera, depuis qu'Allah est sur le arch, jusqu'à ce qu'Allah détruise ce dunya et la résurrection, là il se lève et là il va dire subhanaka lam na'budka haqqa ibadatik. Oh Allah, toutes les louanges te reviennent. On n'a pas fait ton adoration comme on devait le faire. On n'a pas fait ton adoration comme tu le méritais. Ça, c'est le ibada des anges. On a vu la grandeur du trône. On a vu la grandeur des porteurs du trône, la création des créatures des cieux. Maintenant, nous voyons que ces créatures gigantesques, à quel point ils adorent Allah Azza wa Jal. Alors moi, comment je peux ne pas faire une salah alors que ce n'est pas toute ma vie que je dois faire l'ibada? Comment moi, musulman, je peux me permettre de rater délibérément une salah? C'est vraiment quelque chose d'audacieux, c'est vraiment une khasara, une catastrophe pour cette personne. Et regardez comment ces créatures-là obéissent à Allah. Le prophète A.S. cite un hadith qui nous est rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu. Hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, rahmallah, dit que lorsque Allah Azza wa Jal a créé l'ange qui soufflera dans la trompe, dans la corne, l'ange Israfil alayhi salam, dit que depuis sa création, cet ange, il reste prêt, musta'iddan. Cet ange reste prêt, nahwal arshi, il regarde, il observe le trône d'Allah et il ne cligne même pas une fois des yeux depuis qu'il a été créé, de crainte qu'Allah Ta'ala lui ordonne de souffler dans la trompette et qu'il ne soit pas prêt. Cet ange, depuis qu'il a été créé jusqu'à ce qu'Allah lui donne l'ordre de souffler dans la trompe, il reste éveillé, il reste concentré, il regarde le trône d'Allah avec crainte que s'il cligne des yeux, Allah Ta'ala l'aurait ordonné et qu'il n'aurait pas saisi l'ordre d'Allah. Regardez comment ces créatures-là, ils adorent Allah et ils obéissent à Allah. La ya'asun Allah ma amaram. Jamais ces anges ne désobéissent à un ordre d'Allah Azza wa Jal. Et entre le septième ciel et le trône d'Allah, il y a 70 alf hijab. Il y a 70 000 voiles entre le septième ciel jusqu'à arriver auprès du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense que pour ce soir, on va s'arrêter là. L'objectif de ces descriptions magnifiques, c'est quoi? C'est qu'on comprenne que notre Seigneur, notre Créateur, il est magnifique. Notre Créateur, il est al-Samad, al-Ahad, al-Samad, il est al-Azim, al-Karim, il est indescriptible, comme yaliqu bihi azza wa jal, et que moi je me dois de faire son adoration et essayer de comprendre devant qui je me prosterne et développer la concentration. Je parle pour moi en premier, hein, quand je fais la salat et que dans ma salat je pense à mon repas d'après Isha, ou je pense à ce que je vais faire demain, ou mon travail, ou qu'est-ce que je dois acheter pour les courses, quel manque de respect. Je suis devant qui et comment j'ose penser à autre chose? Et également face au péché, je me dois de penser à Allah Azza wa Jal, comment notre Seigneur il est grand, et avec ça on doit se dire que je ne peux pas me permettre de désobéir à ce Créateur qui est aussi gigantesque. Qu'Allah nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles. On a essayé de décrire un petit peu. On demande à Allah de faire rentrer la grandeur, que la grandeur d'Allah entre dans nos cœurs et que la grandeur du dunya sorte de nos cœurs. Parce que quand notre cœur a compris, est imbibé de la grandeur du dunya, il ne peut pas comprendre la grandeur d'Allah. Quand on a compris c'est quoi la valeur d'un billet mauve et qu'on vit pour ça, on ne va pas comprendre la valeur d'un subhanallah. On ne va pas comprendre la valeur d'un alhamdulillah, d'un Allah Akbar, on ne va pas comprendre la valeur d'un sijda. Donc on demande à Allah d'enlever de nos cœurs la grandeur, l'amour, l'attachement pour ce dunya et de mettre dans notre cœur l'objectif pour lequel on a été créé, adorer Allah Azza wa Jal avec dévotion et concentration. Subhanallah Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifoun. Wa salamun ala al-mursaleen, walhamdulillahi Rabbil Alameen.